Il y eut ainsi des drames et des comédies dont le puits fut complice. Ce bienheureux trou, avec ses glaces blanches et son écho musical, hâta singulièrement leur tendresse. Ils lui donnèrent une vie étrange, ils l'emplirent à tel point de leurs jeunes amours que, longtemps après, lorsqu'ils ne vinrent plus s'accouder aux margelles, Silver, chaque matin en tirant de l'eau, croyait y voir apparaître la figure rieuse de Millette dans le demi-jour, frissonnant et émue encore de toute la joie qu'ils avaient mise là. Ce mois de tendresse joueuse sauva Millette de ses désespoirs muets. Elle sentit se réveiller ses affections, ses insouciances heureuses d'enfant, que la solitude haineuse où elle vivait avait comprimée en elle. La certitude qu'elle était aimée par quelqu'un, qu'elle ne se trouvait plus seule au monde, lui rendit tolérables les persécutions de Justin et des gamins du faubourg. Il y avait maintenant une chanson dans son cœur qui l'empêchait d'entendre les huées. Elle pensait à son père avec une pitié attendrie. Elle ne s'abandonnait plus aussi souvent à des rêveries d'implacable vengeance. Ses amours naissantes étaient comme une aube fraîche dans laquelle se calmaient ses mauvaises fièvres. Et en même temps, une rouerie de fille amoureuse lui venait. Elle s'était dit qu'elle devait garder son attitude muette et révoltée si elle voulait que Justin n'eût aucun soupçon. Mais malgré ses efforts, lorsque ce garçon la blessait, il lui restait de la douceur plein les yeux. Non, elle ne savait plus où prendre le regard noir et dur d'autrefois. Il l'entendait aussi chantonner entre ses dents le matin au déjeuner. Hé, tu es bien gaie, la chante-greille, lui disait-il avec méfiance, en l'examinant de son air louche. Je parie que tu as fait quelque mauvais coup. Elle haussait les épaules. Mais elle tremblait intérieurement. Elle s'efforçait vite de jouer son rôle de martyr révolté. D'ailleurs, bien qu'il flairât les joies secrètes de sa victime, Justin chercha longtemps avant d'apprendre de quelle façon elle lui avait échappé. Silver, de son côté, goûtait des bonheurs profonds. Ses rendez-vous quotidiens avec Millette suffisaient pour remplir les heures vides qu'il passait au logis. Sa vie solitaire, ses longs tête-à-tête silencieux avec tante Dide furent employés à reprendre un à un ses souvenirs de la matinée, à en jouir dans les moindres détails. Il éprouva dès lors une plénitude de sensations qui le mura davantage dans l'existence cloîtrée qu'il s'était faite auprès de sa grand-mère. Par tempérament, il aimait les coins cachés, les solitudes où il pouvait à son aise vivre avec ses pensées. À cette époque, il s'était déjà jeté avidement dans la lecture de tous les bouquins dépareillés qu'il trouvait chez les brocanteurs du faubourg et qui devaient le mener à une généreuse et étrange religion sociale. Cette instruction, mal digérée, sans base solide, lui ouvrait sur le monde, sur les femmes surtout, des échappées de vanité, de volupté ardente qui auraient singulièrement troublé son esprit si son cœur était resté inassouvi. Millette vint. Il la prit d'abord comme une camarade, puis comme la joie et l'ambition de sa vie. Le soir, retiré dans le réduit où il couchait, après avoir accroché sa lampe au chevet de son lit de sangle, il retrouvait Millette à chaque page du vieux volume poudreux qu'il avait pris au hasard sur une planche, au-dessus de sa tête et qu'il lisait dévotement. Il ne pouvait être question, dans ses lectures d'une jeune fille, d'une créature belle et bonne, sans qu'il la remplaçât immédiatement par son amoureuse. Et lui-même, il se mettait en scène. S'il lisait une histoire romanesque, il épousait Millette au dénouement ou mourait avec elle. S'il lisait au contraire quelques pamphlets politiques, quelques graves dissertations sur l'économie sociale, livres qu'il préférait au roman, par ce singulier amour que les demi-savants ont pour les lectures difficiles, il trouvait encore moyen de l'intéresser aux choses mortellement ennuyeuses que souvent il ne parvenait même pas à comprendre. Il croyait apprendre la façon d'être bon et aimant pour elle quand il serait marié. Il la mêlait aussi à ses songeries les plus creuses.